étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 10e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur tassilunois Jacques Maurice, dont le dernier polar, Pente fatale, est paru le 12 septembre 2023 aux éditions André Audemars. Jacques, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous préférez le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on vous présente ?
Auteur me va bien.
Auteur, ok. Alors, bien, quelle était la place de la lecture avant de vous lancer dans l'écriture ?
La place de la lecture n'était pas éminente. C'est en fait l'écriture et l'envie d'écrire m'est venue du fait que je lisais énormément de polars, par contre. Mais je ne suis pas un serial lecteur. Voilà.
Alors, quelle autrice et quels auteurs vous ont donné l'envie de lire et puis d'écrire ?
Alors, je crois qu'on va simplement parler de celui qui m'a donné envie d'écrire. C'était Santonio, enfin Frédéric Dard, que j'ai commencé à lire quand j'étais encore au collège, à la fin du collège et au début du lycée. Et en fait, je me suis plongé là-dedans avec délice, et c'est vraiment San Antonio qui m'a donné ensuite l'envie d'écrire.
Alors, vous avez commencé à écrire, j'ai lu hein, sur votre site, en 1986.
Absolument.
Donc, vous aviez 28 ans.
Bon calcul.
Non, c'était marqué, c'est marqué aussi sur votre site, ça.
Oui, oui, 1986, mais...
Oui, mais l'âge ?
Mais là, je ne me souvenais plus.
Ah d'accord. Alors, pourquoi cette envie soudaine d'écrire en 1986 ?
Est-ce qu'elle était soudaine ? Là est la question.
Je ne sais pas.
En fait, c'était quelque chose qui me titillait depuis un bon moment. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, c'est vrai qu'à cette époque, j'étais au chômage, qu'on attendait notre aîné et qu'on s'était lancé dans des travaux pour rénover un appartement et que donc tout ça faisait beaucoup en même temps et qu'il me fallait un dérivatif. Et donc je me suis dit, après tout, j'ai pris un cahier, un stylo et je me suis mis à écrire. Voilà.
D'accord. Alors votre écriture est fortement, vous me dites si je me suis trompé, est fortement influencée par celle de Frédéric Dard avec les San Antonio. Alors, comme Frédéric Dard, vous êtes né en Isère.
Ah oui, mais c'était presque... Enfin, je ne vais pas dire que c'était un accident, mais...
Les fêtes. Comme Frédéric Dard, vous avez écrit sous le nom de votre personnage principal.
Oui, les sept premiers polars que j'ai écrits, effectivement.
Donc, sans Frédéric Dard, votre passion pour l'écriture aurait été la même? Auriez-vous écrit des livres?
Ah, j'ai pas lu que Frédéric Dard, d'un autre côté. J'étais fortement amateur de BD et je lisais énormément de romans d'espionnage. À l'époque, les Kenny, un peu plus vieux, les SAS. Alors, c'est pas des bonnes références littéraires, j'en conviens. Mm-hmm. Et puis, j'ai aussi lu les grands anciens comme Simenon, Agatha Christie, Ex-Braya, etc.
Bon, donc on peut dire que c'est eux aussi qui vous donnent...
Oui, bien sûr.
Bien. Donc, c'est facile pour vous de se détacher de l'influence de Frédéric Dard tellement... Elle est en vous.
Je pense que dans ma deuxième série, donc les enquêtes du commissaire Sévrac, je m'en suis quand même écarté. D'abord, je n'écris plus au présent, ce qui était une des caractéristiques des San Antonio. Hein. Ils étaient écrits au présent et à la première personne. Et puis, mon personnage s'est quand même éloigné. Et on retrouve un personnage qui est vraiment San Antonien dans mes polars actuels. C'est un des sbires du commissaire Sévrac, c'est le surnommé Culbuto, qui ressemble un peu à Beru. Mais sinon, je pense que je me suis quand même écarté à la fois de l'écriture de Frédéric Dard, que je me suis lancé dans une écriture plus personnelle.
Alors, votre premier roman s'appelle Steak Barbare, et il est paru sous le nom de votre personnage principal, hein, Luc Castillon.
Oui.
Alors, pourquoi vous cachiez-vous sous ce nom ?
C'est toujours San Antonio. Ah, Frédéric Dard...
Pour faire comme lui ?
Et son personnage, c'était à la fois son nom d'auteur pour cette série de San Antonio.
D'accord. Alors, Luc Castillon dirige la brigade antiterroriste qui se trouve en Île-de-France, comme vous à l'époque.
Oui.
Alors, vos histoires se passent forcément dans la région où vous habitez ?
Non, les Castillons se passaient un peu partout en France, mais c'est vrai, beaucoup à Paris, parce que quand il y a eu des attentats dans les années 80 jusque dans les années 2000, c'était surtout à Paris que ça se passait. Donc, effectivement, je me suis inspiré de tous ces événements malheureux pour cette série des Luc Castillon. Mais par exemple, le dernier qui s'intitule « La châtreuse de charme », très standalien, se passe au Maroc, enfin, se passe bien sûr à Paris, mais s'évade au Maroc, passe par Lyon, d'ailleurs, et fait même un tour en Afghanistan, à la frontière du Pakistan, où à l'époque, Ben Laden s'était réfugié après l'attaque américaine contre l'Afghanistan. Donc vous voyez, mon Castillon était quand même pas que parisien.
D'accord. Alors vous avez écrit 7 romans sous le nom de Luc Castillon, de 1986 à 2002.
Ouais, c'est ça.
Donc un an auparavant, vous êtes venu habiter à Lantilly, juste à côté de Lyon. Luc Castillon a cédé la place au commissaire Sévrac, chef de groupe à la brigade criminelle mutée à Lyon.
Oui.
Ça n'aurait pas été plus simple de muter Luc Castillon dans la capitale des Gaules ?
Ah ben non, parce qu'en fait, peut-être que j'en avais assez. Ben, pas assez, j'aimais bien ce personnage, mais il avait pas mûri, il n'avait pas vieilli. C'est vrai qu'il était très parisien, et en fait, c'est aussi, j'ai changé ma façon d'écrire. C'est-à-dire que les Castillons, c'était l'action qui tirait l'intrigue. C'est-à-dire que à chaque fois, il y avait des... Enfin, c'est un peu comme ça, Antonio. Il y avait des péripéties, de l'action, des coups de pétard, etc. Alors que mon Sévrac, mes Sévracs sont plus dans l'enquête, plus classique comme polar.
Alors, vous avez aussi choisi d'écrire sur votre propre identité.
Absolument.
Alors, vous en avez marre de vous cacher, comme si vous assumiez enfin d'être auteur.
On peut dire ça, oui, effectivement. Ouais. Ouais, c'est en fait l'éloignement ou la distanciation par rapport à Saint-Antonio, ce qui fait que je me suis approprié aussi l'écriture et mon écriture à moi.
Alors, on passe facilement de la brigade antiterroriste à la brigade criminelle, qu'on soit dans la police ou dans l'écriture de Polar.
Alors, comme je ne suis pas dans la police, je ne peux pas vous dire. Mais dans l'écriture, oui. Là, je me suis vraiment appuyé sur les autres lectures que j'avais pu avoir d'auteurs de Polar plus classiques. Que je vous ai cité tout à l'heure, mais depuis j'en lis d'autres, bien sûr, plus modernes.
Plus récents.
Ouais.
Même si vous êtes Rhône-Alpin de naissance, vous ne connaissiez pas forcément Lyon ?
Non, j'y avais été pour des raisons professionnelles une ou deux fois, mais je l'ai vraiment découvert quand on est arrivé.
Peut-on dire que vous êtes tombé sous le charme de cette ville ?
Ah bah absolument. Ouais. Comment ferait-on pour ne pas tomber sous son charme ?
Je sais pas, on pourrait en avoir marre des grandes villes, on pourrait aimer la campagne.
Ben non, en fait, moi je suis un urbain, hein, c'est clair. J'aime bien l'ambiance des villes, des centres-villes, de l'animation. Et... Voilà,
ça... Donc avec Lyon, ça va. Donc vous n'avez pas choisi le nom de votre personnage, Abel Sévrac, par hasard. Vous rendez hommage à deux de vos souvenirs d'enfance.
Oui, ben Abel, c'était mon arrière-grand-père. Donc un personnage, Abel Guélard, qui était un personnage qui était né du côté de Bergerac, qui était du sud-ouest, qui était ingénieur des mines, qui est parti construire des chemins de fer un peu partout dans le monde, en particulier en Chine et en Amérique du Sud, à l'époque, donc début du 19e. Et il a quand même réussi à faire 8 filles. Voilà. Et donc, ce personnage m'a toujours un peu fasciné par son histoire, en fait.
D'accord.
Et Sévrac, c'est Sévrac le château. C'est aussi un petit peu un souvenir d'adolescent, en tout cas. Je passais une partie de mes vacances chez mon parrain à Méruès, c'est dans l'Aveyron. Et donc, je prenais la ligne Paris-Rodez. Et la nuit, le train de nuit qui existait encore. Et au petit matin, le train s'arrêtait à Sévrac-le-Château. Voilà. Et donc, je me réveillais à Sévrac-le-Château.
Voilà. Donc, si Luc Castillon avait la trentaine, Abel Sévrac a 50 ans, à peu près.
Ah, vous savez, ces personnages, on ne leur donne jamais d'âge.
Hein. Ouais, il n'avait pas 30 ans, Abel.
Oui,
ouais.
Oui, ouais. Oui, il est père de famille, ses enfants sont effectivement, ont passé l'adolescence.
Il a la cinquantaine, on va dire.
Voilà, oui.
Voilà. Donc, en quoi il vous ressemble plus, à part l'âge, bien évidemment ?
Il ne me ressemble pas du tout.
Pas du tout.
Non, pas, absolument pas. Non, non, je pense que c'est vraiment un personnage créé de toutes parts.
On arrive à écrire un personnage sans
oui.
qu'il ressemble un peu.
Alors je dirais qu'en tant que patron d'équipe, c'est là qu'il me ressemble sans doute le plus.
Ben voilà.
Voilà.
Bon, pour le reste, non.
Non.
Non. Votre nouveau personnage, donc le commissaire Sévrac, travaille à la brigade criminelle de Lyon et vos romans se déroulent à chaque fois dans un quartier différent de Lyon, de Montchat en passant par Vaise, Les Terreaux, La Tête d'Or, Ennet, Montplaisir, Saint-Just, Gerland, La Croix-Rousse et Les Pentes, le lieu de votre dernier roman. Lyon comporte 43 quartiers d'après Wikipédia. 10 romans entre 2009 et 2023, bah, ça fait un roman tous les 1 an et demi à peu près,
ouais.
En moyenne. Donc si vous nous emmenez visiter tous les quartiers de Lyon, le commissaire Sévrac sera-t-il encore vivant en 2074? Parce que vous aurez quand même 116 ans.
Oui, ça va être... J'ai un peu accéléré la cadence. Hein. Depuis que je suis à la retraite, je les sors tous les ans, pratiquement.
Ah, mais ça va être dur de faire tous les quartiers de Lyon.
Non, mais j'ai déjà fait tous les arrondissements et j'ai recommencé un tour. Hein. On va rester aux arrondissements.
Alors, lorsque vous écrivez un polar avec le commissaire Sévrac, pour vous mettre dans l'ambiance, vous rendez forcément dans les lieux qu'il fréquente?
Absolument. Je sillonne le quartier à pied, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on voit le mieux... On voit le mieux le quartier, qu'on découvre, et puis on découvre même les habitants. Et je fréquente bien sûr les bistrots et les restaurants du quartier. C'est de la conscience professionnelle, ça s'appelle.
Est-ce qu'il y a des quartiers à Lyon qui se prêtent plus au polar que d'autres?
Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, parce que à partir du moment où il y a des gens qui vivent à un endroit, il peut se passer des fêtes qui peuvent être générateurs de polar. Donc voilà, je veux dire, évidemment, on pourrait dire la Guillotière, vu sa mauvaise réputation, allez, c'est un bon quartier à polar. Bon, pas forcément davantage que Ennet, où j'ai placé l'un de mes polars, qui est un quartier très tranquille, où vit la bonne bourgeoisie catholique de Lyon. Voilà, je pense que non, il n'y a pas...
Non.
Voilà.
Alors, vos romans sont tout d'abord sortis en auto-édition, puis publiés par les éditions Grille d'Or. Ce sont désormais les éditions AO, André Audemars, qui édite depuis 2015, il me semble, vos romans.
Alors, non, les premiers, les Castillons, ils sont en auto-édition.
Ouais.
Hein, donc,
oui, c'est ce
effectivement. Pardon, oui,
Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, oui.
Ouais, j'avais oui, mal oui. compris. Effectivement, les premiers Sévrac ont été édités par les Grilles d'Or. Et ensuite, je suis passé chez André Audemars, qui a réédité les deux premiers Sévrac des Grilles d'Or.
Donc je disais, 30 ans ou presque sans éditeur, le temps vous a paru long ou l'auto-édition vous convenait?
J'étais même pas encore en auto-édition, c'est-à-dire que j'avais vraiment que le plaisir d'écrire. J'écrivais des polars, j'ai envoyé quelques manuscrits à des maisons d'édition, je rêvais d'être édité par Le Fleuve Noir, qui était la maison d'édition de San Antonio. Ça n'a pas marché. Je pense que je n'avais pas la méthode, et à Paris, il y a trop de maisons d'édition et je n'avais pas assez de temps non plus pour prospecter. C'est quand j'ai commencé mes Sévrac que j'ai prospecté des maisons lyonnaises qui sont plus petites et que j'ai pu trouver les Grilles d'Or qui ont accepté de me publier. Puis, sur le conseil de ma libraire de Tassin, les éditions André Audemars.
Donc, lorsqu'on écrit depuis 1986, on a une certaine... On peut dire qu'on a une certaine légitimité. Ça a été simple de convaincre les éditions André Audemars de signer avec vous?
Oui, ça a été relativement... Oui, ça a été simple. Je lui ai donné mon tapuscrit. C'était le troisième. C'était Le Fantôme des Terreaux. Ça lui a plu. Et on a tout de suite, embrayé.
Alors, votre dernier roman, Pente Fatale, est paru le 12 septembre 2023 aux éditions André Audemars.
Hein? Tout à fait, oui.
Ouais. Pouvez-vous nous en raconter brièvement l'histoire sans trop en raconter? Ça, c'est le plus dur.
Ouais, vous auriez dû me laisser le bouquin, j'aurais relu la quatrième de couve.
Ah bah non.
Alors, il y a, comme dans la plupart de mes polars, il y a deux événements fondateurs. Le premier, c'est un incendie qui se révélera criminel dans un immeuble du 8e arrondissement, et avec mort d'homme, hein, une famille qui brûle au dernier étage. Donc ça m'a été inspiré par un fait divers. Hein. Et d'autre part, une femme qui disparaît à Tassin la demi-lune et qui ne réapparaît pas. Voilà, donc ça lance les deux affaires. Dans la première, on s'aperçoit rapidement que il y a un bailleur d'origine arménienne et un locataire d'origine turque. Donc ça va bien déboucher sur des frictions. Et dans la seconde, c'est la femme d'un gastro-entérologue reconnu et connu sur Lyon, dont la vie n'est pas un long fleuve tranquille, parce que son mari a eu une grave maladie, en a réchappé. Du coup, ils ont trouvé un arrangement de vie qui n'est pas très moral, mais qui fonctionne. Et la question qui se pose, est-ce que c'est un de ses amants qui l'a fait disparaître? Et bien sûr, la police va chercher les amants.
Alors, dans vos romans, les personnages utilisent un langage qui est proche de celui des San Antonio, au moins dans l'esprit?
Pas tous, en fait.
Pas tous. Et au milieu, vous placez des mots, pas forcément de l'argot, hein, au hasard. Hein. J'en ai pris quelques-uns. Calambredaine, acrimonie, loufia, kebabier, trublion, et des expressions typiquement sévérassiennes, moi je dirais presque morisiennes.
Oui, si vous voulez.
Ouais. C'est facile pour vous d'écrire un roman alors qu'il se passe au XXIe siècle, avec des mots et des expressions de périodes qui vont des années 60 à aujourd'hui. Il y a un mélange.
Oui, mais je l'assume. Alors, Carabistouille, excusez-moi, mais je n'assume pas la paternité intégrale.
Car... Moi, je ne l'ai pas dit. Non, moi, c'était Calambredaine, moi.
Ah oui, Calambredaine, mais c'est pareil. Je crois que c'est notre ami le président Macron qui a ressorti ça récemment.
D'accord.
Les Calambredaine, les Carabistouille, et il y en a quelques autres comme ça, dans lesquels je pioche avec délice, parce que justement, c'est ce télescopage, ça me fait marrer, parce que oui, ça correspond bien à ce que j'aime faire, mélanger un peu les mots... Pas forcément rester dans le moderne.
Ouais. Donc, il y a beaucoup d'humour et de dérision dans vos romans.
Oui. C'est ce qu'on me dit, c'est un peu ma volonté.
Voilà. À commencer par les surnoms des personnages. Alors, vous disiez Culbuto, alors DBC, hein, du bon côté, l'homme girouette, Annie Sensibon, Grand Cornu, Pétrus, Blayeux et Pochet, qui sentent un peu la vinasse. Georges Gorge Rouge, sans compter vos propres expressions et quelques contre-pétris dignes de la comtesse du canard enchaîné, hein, il me semble.
Dont je me suis nourri un bon moment, oui, effectivement.
Donc c'est facile de mener des enquêtes et de garder son sérieux avec des gugus pareils.
garder son sérieux, j'écris pas pour garder mon sérieux, j'écris pour m'amuser aussi. Hein.
Oui, c'est des polars quand même, donc il y a des enquêtes, il y a des meurtres, il y a des...
Mais tout ça peut se passer quand même avec une légèreté dans le travail de recherche d'enquête, mais une légèreté globale.
Ouais. Alors, il est souvent question de bouffe et de cuisine, mais pas forcément celle que recommande tout bon nutritionniste qui se respecte.
Dieu merci.
Hein, comment vont faire vos personnages pour rester en vie avant la retraite? Il n'y a pas de visite médicale dans votre police? Il n'y a pas de prise de sang à...
Il y a certainement une visite médicale, hein, mais je ne prétends pas faire de la réalité avec mes équipes policières.
Ouais.
C'est des adultes.
Ouais. Donc c'est quand je parle de vous parlez souvent de bouffe et de cuisine.
Oui. De bons restaurants, bons vins. Pas forcément du bon vin avec Culbuto. Hein. Lui, il est plutôt dans le roboratif et
dans la vinasse.
Dans la vinasse qui tâche, oui.
Alors le commissaire Sévrac est adepte des 3 B. La bouffe, la boisson et la baise.
Oui.
Hein, n'est-ce pas une image un peu dépassée aujourd'hui? Il n'est pas dans l'air du temps.
Eh bien, tant pis.
Ouais.
Je dirais que j'embête l'air du temps. Si je peux me permettre de faire...
Permettez.
J'ai une chroniqueuse de Polar qui a bien aimé le dernier, mais qui m'a quand même fait la réflexion que mon équipe manquait de parité. Voilà, donc je suis en plein dans le vif du sujet aussi avec ça. J'aurais tendance à dire qu'on parle souvent de parité, c'est un terme à la mode, mais je me suis fait la réflexion, si ça avait été une équipe d'éboueurs, m'aurait-elle fait la même réflexion? J'ai jamais vu une femme parmi une équipe d'éboueurs.
Ouais. Voilà. Il y en a sûrement. Hein.
Jamais.
Ouais.
Jamais vu.
Bah, ouais. Vous passez pas votre temps derrière les camions, c'est
non,
pour ça.
Non, mais c'est vrai.
Mais ça existe. Mais vous avez raison. Hein. Le commissaire Sévrac, les liens entre les hommes et les femmes sont un peu ambigus. L'image de la femme n'est plus forcément celle qu'on donne dans les romans policiers, je trouve. Là. Vous êtes plutôt de la vieille école côté écriture
Oui, on peut dire ça, mais bon, quand je lis Fred Varga, je ne sais pas si c'est la vieille écriture, mais bon, les relations entre les hommes et les femmes ne sont pas très différentes de celles que je peux... Fred Varga, c'est un de mes auteurs actuels préférés. Donc je trouve que non, y a pas, par rapport à elle, il n'y a pas vraiment de déconnexion.
Ouais.
Je crois que les hommes resteront des hommes et les femmes des femmes, et que... voilà... Même si on essaye de rendre tout soft, en particulier dans le milieu du travail, pas sûr que ça ait beaucoup, beaucoup évolué.
Alors, quelle est la part de fiction et de réalité dans vos romans?
Alors, c'est, je dirais, à 90% de la fiction, à part que généralement, je prends un fait divers qui m'a marqué comme début de mon bouquin. Mais sinon, tout le reste, je l'écris. Enfin, évidemment, la période est présente parce que je reprends l'air du temps, que je parle de la société. Que, d'ailleurs, c'est pour ça que j'écris du polar, parce que je trouve que c'est le bon moyen de parler de la société sans être trop pédant, sans faire de la sociologie, en mixant un peu tout ce qu'on peut lire. Voilà, c'est, pour moi, ça montre un peu le monde dans lequel on vit.
Mmh, ouais. À qui faites-vous... Je recommence. Vos derniers romans se passent en partie à Tassin la demi-lune, ville où vous résidez.
Oui, le dernier, oui.
Le dernier, pardon. Les enquêteurs ont-ils justement enquêté pas loin de chez vous? Vous les faites passer chez vous?
Non, ils passent pas chez moi. Ils passent à côté de la mairie qui n'est pas très loin de chez moi. La gendarmerie non plus, elle n'est pas très loin de chez moi. Mais je ne mentionne pas mon domicile. Non.
Alors, à qui faites-vous lire en premier vos romans lorsque vous les terminez?
À ma voisine, à madame, mon épouse.
Forcément.
Oui, c'est ma bêta lectrice, comme on dit, sans que ce soit péjoratif.
Votre conscience littéraire, presque? Votre caution littéraire? Non.
Non, c'est pas ma caution littéraire, parce qu'elle est très critique sur certains points de mes polars, mais bon,
ouais.
Voilà. Mais elle en a la primeur.
Ouais. En plus, elle est là ce soir
Bah oui, elle est là ce soir. Ouais.
Elle peut dire deux ou trois mots sur votre sur le style.
Ah, t'es bien embêté. Hein.
Ouais. Ah bah fallait pas venir. Hein. Allez, bonsoir tout d'abord.
Vous êtes pas... Bonsoir.
Bonsoir. Si vous aviez quelques mots pour résumer l'écriture de votre mari.
Résumer l'écriture de mon mari. Ouais. Eh ben c'est génial. Il faut absolument acheter ses livres et les lire. Voilà.
Voilà. Bon bah ça.
Bon. Ou les prendre à la bibliothèque.
Hein. Oui bien sûr bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez chez lui?
Son style, déjà. J'aime beaucoup son style d'écriture. C'est très bien écrit. Et puis, l'intrigue tient debout. Il n'y a jamais... Enfin, on ne trouve pas de choses qui ne sont pas logiques. Voilà. Bon, bah, y a de l'humour aussi, de l'action... Voilà, c'est des bons polars.
Et qu'est-ce que vous corrigez le plus chez lui, dans ces romans?
Moi, je ne corrige pas grand-chose. C'était tout au début, je trouvais qu'il y avait trop de descriptions. Mais, des descriptions un peu longues. Mais sinon, non, je corrige rien. Des fois, un mot ou une expression. Ça se limite à ça.
Bien. Bon, votre femme s'appelle
Annick.
Voilà. Merci, Annick.
Je vous en prie.
Mais de rien. C'est un plaisir. Alors, lorsque, comme d'habitude, vous êtes reparti avec votre bâton de pèlerin sur les routes de la région pour assurer la promo de votre dernier roman et des autres, bien évidemment, vous avez l'air d'apprécier ces moments de rencontre avec vos lectrices et vos lecteurs et avec les autrices et les auteurs qui sont présents.
Tout à fait. C'est quelque chose que j'ai découvert vraiment en arrivant sur la région lyonnaise. Je n'avais pas fait de salon puisque je n'étais pas édité. Et donc, je me suis mis à faire des salons et au début, ce n'était pas évident parce que parler de ce que l'on écrit et de soi, c'est vraiment quelque chose qui m'a demandé un gros effort. Mais maintenant, vraiment, j'apprécie ces moments de rencontre où on peut parler, on peut échanger sur ce que j'écris, mais pas forcément que. Et ce que j'apprécie beaucoup... c'est quand les gens me parlent de Mon Commissaire ou de Culbuto, qui sont les deux personnages principaux qui ressortent le plus, comme si c'était des copains, en fait. Souvent, les remontées que j'ai, c'est que Mon Commissaire est très apprécié, voilà. Sa personnalité. Malgré tous ses défauts, son machisme, tout ce que l'on peut dire, il est apprécié et, je dirais, il est apprécié par les femmes. malgré qu'il soit macho.
D'accord. Il y a toute une bande d'autrices et d'auteurs de romans policiers de la région qui se retrouvent régulièrement dans les salons, que ce soit à Tignat, ou à Chapolard, ou à Chaponnet, ou à Saint-Chef, ou à Sandanque, à Vienne. Je pense à Florence Fréguin-Schneider, à Sandrine Bertani, Laurent Garin, ou Alain Descortes, par exemple. Il y a d'autres. Il n'y a pas que l'écriture qui vous unit. L'amour de la bonne chère et du bon vin également.
Bien sûr.
Les photos sur Facebook en sont la preuve. Les séances de dédicace sont aussi un sacré moment de convivialité.
Oui, on est content de se retrouver entre auteurs, d'échanger des potins, de parler de tout et rien. Et puis c'est vrai que c'est agréable de se retrouver avec des gens qui partagent la même passion, parce que c'est vraiment une passion.
Alors vous qui avez déjà participé, le Graal de tout romancier de polar est-il d'être invité un jour au Quai du Polar à Lyon ?
Alors oui, j'ai vraiment participé dans la grande salle de la Chambre de commerce à mes débuts avec les éditions AO, où j'étais un peu en passager clandestin sur le stand de la librairie, le bal des Ardents. Et donc à l'époque, j'ai côtoyé des grands auteurs, Conley, américains, etc. C'était impressionnant parce que c'était un peu comme à Disneyland, il y avait des barrières, des chicanes, tellement il y avait de monde, ils avaient des piles de livres énormes. Bon, bah moi, à mon modeste niveau, j'ai quand même réussi à vendre, je crois, en deux après-midi, une quarantaine de bouquins. J'étais très fier. Alors après, les Quais du Polar, ça a changé pour moi, puisque c'était plus possible d'être passager clandestin sur un stand dans la grande salle de la Corbeille de la Chambre. Il y a un deuxième site qui est l'atrium de l'Hôtel de Ville, où là, il y a des bouquinistes et un libraire spécialisé dans le polar, le Petit Noir, monté de la Grande Côte à Lyon. Qui a apprécié mes polars et qui donc chaque année depuis 5 ans je crois m'accueille sur son stand, et encore cette année je vais faire les Quais du Polar donc dans cette configuration atrium de l'Hôtel de Ville. Alors c'est moins prestigieux, il y a moins de monde, il y a moins de voisins, enfin il n'y a pas de voisins très capés comme j'ai pu en fréquenter pendant, enfin je ne les ai pas fréquentés en fait, ils n'avaient même pas le temps de me parler pendant 2 ans. Mais c'est très sympa parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de monde, beaucoup de passages et beaucoup de passionnés du polar.
Ouais. Alors, dans quel quartier le commissaire Sévrac va se rendre lors de ses prochaines aventures ? 6 prochaines aventures, il y a ?
Il y a, le 11e, on est à sa moitié d'écriture, et le quartier de cible sont les Brotteaux. Alors, je ne peux pas encore vous dire le titre parce que j'ai quelques idées sur la question, mais on n'a pas encore tranché.
Bien. Vous avez écrit également 2 nouvelles ?
Oui, en fait, 3.
3 ?
2 nouvelles, 3 nouvelles d'ailleurs, dans le cadre d'une association de promotion du polar, Dora Suarez, le blog, donc, qui a lancé des petits recueils de nouvelles noires. Donc, dans chaque recueil, les premières, il y avait 4 auteurs. Et donc, chacun produisait sa nouvelle. Et dans le dernier auquel j'ai participé, on était 10 auteurs. Et il y avait un jeu en même temps. Les nouvelles n'étaient pas, ne portaient pas le nom de leur auteur. Il fallait que les lecteurs identifient les auteurs. Alors, la nouvelle, la première fois que j'en ai fait une, c'était vraiment, c'est le cas de le dire, très nouveau pour moi. Et je m'étais dit que j'aurais eu du mal à tenir dans ce format. Et puis finalement, c'est venu tout seul. Et j'en ai écrit une quatrième, là, qui s'intitule « Pas de corona pour Sévrac ». Et qui se passe pendant la période du Covid. C'est une enquête en temps de confinement.
Bien. Vous auriez envie d'écrire autre chose que des polars, ou alors d'un autre style, moins Frédéric Darrien ?
Alors je pense, je vous l'ai déjà dit, que je me suis quand même éloigné de Frédéric Darrien, mais je ne le quitterai jamais complètement. Je pense que c'est vraiment... c'est ce qui m'amuse aussi dans l'écriture, c'est de jouer avec les mots. Des fois, ça agace les gens, c'est les surnoms ou même les patronymes de mes personnages. Mais moi, c'est ce qui me plaît. Bon, voilà, donc je crois que je ne quitterai jamais complètement la Saint-Antoniaiserie.
Bien. Tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique 4e de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le quai, épaule contre épaule. Sur les 4e de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les 4e de couverture.
4e de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Jacques Maurice, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Oula, Vous me preniez dernier. De court, vous auriez dû me prévenir à l'avance.
Ah, j'aurais peut-être dû vous dire d'écouter les émissions d'avance, ça vous aurait donné des idées.
Oui. Voilà. Bon, je suis en train de lire un polar de Michel Pedinelli, qui est aux éditions Aube Noire, qui s'appelle Chien sans collier. Je découvre cette autrice et je dois dire que je suis de plus. Enfin, j'ai eu un peu de mal au début, mais après, quand je suis rentré dedans, je trouve ça vraiment génial.
Bien. À côté, dernière sortie, proche ou lointaine, notons le dernier polar de Marc Woltenhauer, Cendre ardente, paru aux éditions Slatkin et ce jour en poche aux éditions Pocket. Deuxième roman du Lyonnais Arthur Roger, que vous connaissez ?
Oui, voilà. Je l'ai croisé. Ouais.
Le petit mec aux éditions du Gros Caillou, qui sera mon invité le jeudi 11 avril 2024. Le nouveau livre de Guillaume Meurice, Dans l'oreille du cyclone, qui sort ce vendredi aux éditions du Seuil. Le nouveau roman policier de la Lyonnaise, Petroni Rostagna, que vous connaissez aussi.
Oui.
Et le nouveau roman de Cécile Baudin, La Constance de la Louve, qui sort aujourd'hui aux éditions Presse de la Cité et qui sera avec nous le jeudi 20 juin 2024. Cécile Baudin, vous connaissez ?
Non, je ne crois pas l'avoir croisée.
Pas encore. Alors pour terminer l'émission, bah les dates de séances dédicaces, on va les annoncer ensemble, si vous voulez bien. Et en plus, vous figurez dedans.
Bah oui.
Allez, le vendredi, bah je vais commencer par... Annoncez le premier, tiens.
Attendez, parce qu'il faut que je remette mes lunettes avec le casque, c'est pas facile.
Ah, c'est pas pratique.
Non. Alors, vendredi 15 mars, oui. À la librairie de la Madeleine à Lyon,
voilà.
7, Anouk.
Lejdik.
Lejdik. Ouais, 19h15. C'est pour ça que vous m'aviez laissé le premier. Hein.
C'est fait exprès, ouais. Ouais. C'est une burgienne d'origine. À l'espace culturel Louis Aragon à Saint-Vallier, la ciné-débat Silence des agneaux avec Sacha Herbel et Christophe Royer à... voilà. En fin d'après-midi, j'ai bouffé l'heure. Voilà.
Alors, le suivant, c'est au théâtre Arphonème à Bourg-en-Bresse.
Oui.
On dit Bourg-en-Bresse. Ouais. Joël Bastard à 20h, échange, lecture musicale et dédicace.
Le samedi 16 mars 2024, à la médiathèque Jean Grosjean à Baume-les-Dames dans le Jura, le 6e salon du livre, au fil des mots avec Laurent Malot.
Le samedi 16 mars toujours, à partir de 16h, de Citre-Bellecour, votre serviteur Jacques Maurice.
Voilà. Chapelle de la Trinité à Lyon dans le 2e, magnifique livre avec Benoît Fourchard, Gérard Coquet et Stéphane Lanos, et une lecture avec Anouche Lejdik à 15h.
Toujours le samedi 16 mars, salle La Révolte Villette-Danton, La Révolte à Villette-Danton, dans l'Isère, Salon du Livre et de l'Image avec Alain Descortes.
Voilà. Puis, annoncez le prochain, le dimanche 17 mars, tiens.
C'est à moi. Oui. Espace Noël Ravassar à Châtillon-sur-Charonne, voilà. Chalaronne, je suppose.
Oui.
Ouais.
Oui.
8e Salon du Livre, Jeunesse, de 10h à 18h.
Voilà, la Chapelle de la Trinité à Lyon dans le 2e. Magnifique livre avec Benoît Fourchard, Stéphane Lanos, Gérard Coquet et Anouk Lejdik. Non, mais il n'y a pas que vous, hein, moi aussi. Là, c'est... Voilà.
Et donc, toujours ce dimanche 17 mars, on n'arrête pas. Ça, mais c'est oui. À Brinda, dans le Rhône, voilà, la salle des fêtes, le salon du livre, les amoureux du livre, avec Jacques Maurice, de 10h à 18h.
Voilà, et plein d'autres auteurs.
Bon, bien sûr, il y en a 80. Voilà. Je ne serai pas tout seul.
Non. La salle de la Révolte à Villette-Danton, dans l'Isère. Toujours le salon du livre et de l'image, avec Alain Descortes et Florence Fréguin-Schneider. Voilà. Eh ben, on tourne la page et puis c'est à vous.
Et voilà, donc le jeudi 21 mars, librairie Passage à Lyon, Olivier Rollin de 19h à 20h30.
Le samedi 23 mars, à la FNAC Macon, quelqu'un que vous connaissez sûrement, Christophe Royer.
Je le connais.
Voilà. Ce dernier roman se passe à Lyon, non ?
Oui.
Ah, c'est ça ?
Oui. Et le suivant, je le connais aussi.
Bah, le suivant, il est pour vous, le suivant.
Oui, samedi 23 mars toujours, Cultura Saint-Priest, donc je suppose que c'est 10h-18h. Didier Fossé.
Voilà. À l'espace André Malraux à Nantua, c'est le Salon du Livre de 10h à 18h avec Cécile Baudin, Sylvie Julien Rayeri, qui était notre invitée il y a 15 jours, et Antonine Maillet à 16h. On n'a toujours pas la liste des participants, mais il y a une cinquantaine de participants et de participantes.
Le dimanche 24 mars, salle des fêtes, le Phaéton Culoz-Béon. Ou Culoz en Béon.
Culoz Béon en Bugey. Voilà, c'est
en Bugey, il manquait Bugey.
Oui, mais c'est là. Ouais.
13e fête du livre de 9h à 18h.
Voilà. À l'espace André Malraux à Nantua, toujours le salon du livre de 10h à 18h avec toujours Cécile Baudin et toujours Sylvie Julien Rayeri.
Et enfin, le mercredi 27 mars 2024, librairie Le Jardin des Lettres à Craponne dans le Rhône, rencontre avec Sonia Delzong. voilà. À 19h.
Encore une lyonnaise.
Oui, je la connais aussi.
Ouais. Eh bien, figurez-vous que Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà. Jacques Maurice, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Eh ben, merci Michel.
Rappelons que votre dernier roman, Pente Fatale, est paru le 12 septembre 2023 aux éditions AO comme André Audemars.
Exactement. Hein,
on peut se procurer où, sans oublier tous les autres, que ce soit avec Abel Sévrac ou Luc Castillon.
Alors, chez les libraires lyonnais, on peut les trouver facilement. Plus on s'éloigne, plus c'est difficile. Mais comme l'éditeur est référencé sur les plateformes des libraires, en principe, si le libraire fait bien son travail, il les commande chez l'éditeur et il le reçoit dans les 48 heures.
Bien. On peut suivre votre actualité sur Internet via votre site, hein, jacques-maurice-polar.fr, très complet. On pourrait presque le lire comme un livre.
Hein. Oui.
Il y a plein de choses. Hein.
Oui, je m'entraîne.
Oui, effectivement. Et sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Les prochaines invitées de Roman de Gare, le jeudi 28 mars 2024 à 18h30, seront Nathalie Mazzoli et Ophélie Dété, deux des organisatrices du 3e salon du Polar Cépage Noir, qui aura lieu le samedi 27 avril 2024 au domaine Luquet à Fuissé en Saône-et-Loire. 15 autrices et auteurs présents, avec entre autres Xavier Massé.
Oui,
vous connaissez, hein,
oui.
Gérard Sarian,
oui.
Voilà, qui sera mon invité le jeudi 23 mai. Gérard Coquet.
Oh, je le connais.
Voilà.
Très bien.
Alexis Leipsker.
Non.
Non, pas encore. C'est le parrain de l'événement. Christophe Freuillet et René Manzor.
Oui.
Voilà. Tous ces noms vous disent forcément quelque chose.
Bien sûr.
Voilà. Eh bien, Jacques, bonne chance pour la suite de vos aventures de romancier. Bonne lecture, bon salon, bon voyage, parce que vous voyagez aussi.
Oui.
Hein, il y a plein de choses à raconter après les voyages.
Absolument.
Et à bientôt sur Radio B.
À bientôt, merci.
Bonne soirée.
Il s'efface quand je ferme le bouquin. À voix basse, il s'efface quand je ferme le bouquin. Depuis, dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir.